Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Tout à l'heure à l'émission, on s'intéresse à l'histoire et aux grands noms de la médecine avec Christiane Campagna, elle qui est recherchiste pour l'émission, également chroniqueuse, et qui, une fois par mois, nous présentera ce segment un petit peu plus historique pour comprendre un petit peu plus peut-être où on s'en va et d'où on vient en ce qui a trait à la science et à la médecine. Et aujourd'hui, on commence vraiment par la base, en apprenant à connaître celui qui est considéré comme le père de la médecine, qui prête son nom à un serment émis encore par les jeunes médecins ici en Occident et qui a laissé un héritage certain, hein, vous l'aurez deviné, probablement Hippocrate. Donc, on apprendra à le connaître davantage tout à l'heure. Et puis, si vous avez des sueurs froides, la nausée, l'envie de disparaître lorsque vous devez rencontrer une nouvelle personne, un inconnu, ou lorsque vous devez vous exprimer en public, ça se pourrait que vous soyez quelqu'un de timide. Ben, il n'y a pas de souci parce qu'il y a pas mal de monde qui sont timides à un moment ou l'autre de leur vie. Et vous ne seriez pas le seul, hein, parce qu'on évalue qu'il y a 55 % de la population qui appréhende la situation, entre autres, là, de parler devant des gens, devant un groupe. Mais avec le temps, souvent la maturité, les expériences de vie, une meilleure estime aussi, ben, on peut apprendre à vaincre la timidité, à la surpasser aussi. Puis ça devrait arriver un petit peu moins souvent là, d'être gêné ou tétanisé là, par une foule. Cependant, quand cette crainte-là s'amplifie, que ça conduit à bon, une humeur un petit peu plus dépressive ou encore à de l'isolement, il ne faudrait pas négliger la situation. Ça pourrait être bien aussi d'en parler, d'aller chercher de l'aide. C'est quoi la phobie sociale? C'est quoi la timidité? J'en parle aujourd'hui avec Émilie Jeté, psychologue au programme des troubles anxieux et de l'humeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Émilie Jeté, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes timide, vous?
Si moi, je suis timide, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, à la radio, probablement que je suis un peu intimidée.
Oui, voilà, parce qu'on l'est tous à un moment donné ou l'autre de notre vie, intimidée ou un petit peu timide. On rencontre quelqu'un de nouveau à une soirée, on va à une réunion de parents, c'est la première fois de l'année. Bon, c'est des situations qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, mais la grande question, et lorsque j'ai fait mes recherches, ça revenait souvent, quelle est la différence entre la timidité et la phobie sociale?
Oui, en fait, c'est vrai que c'est important de faire la différence entre les deux parce que, comme vous le disiez si bien, la timidité, à peu près tout le monde va se retrouver là-dedans à un moment donné ou à un autre de leur vie. Par contre, la phobie sociale, ça va beaucoup plus loin que ça. Les gens qui ont une phobie sociale, qu'on appelle aussi le trouble d'anxiété sociale, c'est vraiment une peur très marquée et persistante dans des situations sociales, des situations de performance. Mm-hmm. Et souvent, même si les gens qui ont une phobie sociale vont être perçus comme des gens timides, ben en fait, ils éprouvent une gamme là, de symptômes physiques ou de symptômes psychologiques très sévères qui va bien au-delà de la simple gêne.
Émilie, mm-hmm. je lisais quelque chose sur la distinction entre la timidité et la phobie sociale et je trouvais ça... je trouvais qu'on imaginait, c'était bien imagé, en fait, on pouvait mieux l'imaginer, c'est-à-dire que la timidité serait une sensibilité et la phobie une peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense que c'est une belle distinction à faire. Une autre analogie qu'on pourrait faire aussi, c'est, par exemple, quand on parle de dépression ou de déprime. Hein, la déprime, tout le monde va à un moment donné ou à un autre, là, une journée, ça file moins bien, mm-hmm. tout ça. Ça fait partie de la vie. Mais la dépression, par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le temps, qui est beaucoup plus profond, qui amène vraiment un dysfonctionnement là, au niveau social, personnel, professionnel et tout. Alors, effectivement, la même chose, hein, si on veut distinguer la timidité de la phobie sociale, ça vraiment, ça entrave le fonctionnement des gens. Mm-hmm. Puis une autre façon qu'on a aussi de distinguer les deux, c'est que souvent les gens qui sont timides, bien s'ils sont avec des gens, par exemple, qui sont très accueillants, qui ont une attitude attitude là, très amicale, ben ils vont tranquillement se sentir plus à l'aise et prendre graduellement un peu plus leur place. Alors que quelqu'un qui a une phobie sociale, même s'il est entouré de gens très accueillants, ça suffira pas à faire baisser son malaise. Le malaise va aller jusqu'à des sensations de panique, va se demander en fait si l'autre est vraiment sincère dans son accueil ou va se juger, va avoir l'impression qu'il n'est pas adéquat, tout ça. Donc ça va beaucoup, beaucoup plus loin.
Ça devient quasi un handicap, là.
Oui, c'est vraiment, c'est très, très handicapant une phobie sociale. Il faut surtout pas minimiser l'impact là, de ça. Vraiment, c'est des gens qui, lorsque ce n'est pas traité, peuvent en venir à être très, très isolés, avoir de la difficulté à se trouver un emploi, ne pas être capable d'être en relation amoureuse. Donc, ça peut avoir des impacts à différents niveaux, là.
L'une des différences aussi, c'est que j'ai l'impression que la timidité, avec le temps, ça peut apprendre à se dompter, je dirais, on peut apprendre à surpasser la timidité, soit par l'expérience de vie, ou encore, apprendre à connaître ses limites un petit peu plus, l'estime de soi, tandis que la phobie sociale, on a besoin d'aide extérieure.
Absolument. Effectivement, la timidité, c'est quelque chose que souvent les gens vont rapporter comme étant relativement là, inconfortable, mais tout de même domptable, comme vous disiez si bien. Alors que la phobie sociale, vraiment, c'est très, très difficile pour les gens de se contrôler parce qu'on parle de sensations, de réelle panique là, en situation sociale. Donc, ça donne vraiment le goût de s'enfuir et de pas affronter les situations. Tandis que la timidité, les gens vont dire, ben ça me tente pas trop, là, mais c'est correct, je vais prendre sur moi, je vais y aller.
Oui. Ouais. Lorsque l'on parle de réaction physique, lorsqu'il est temps de parler de phobie sociale, à quoi on peut s'attendre?
En fait, les symptômes physiques d'anxiété les plus courants, là, les gens vont nous parler de palpitations cardiaques, de tremblements, de transpiration. Les gens vont même parfois rapporter là, des symptômes là, gastro-intestinaux, des rougissements, même des confusions au niveau de la pensée. Les gens vont nous dire « mais j'arrive plus à réfléchir, on dirait qu'il n'y a rien qui sort, je bredouille, tout ça. »
Et ça apparaît à quel moment de la vie?
Typiquement, ça va survenir entre l'âge de 10 et 20 ans. Par contre, ça existe là avant l'âge de 10 ans. Il y en a des enfants qui souffrent de phobie sociale avant 10 ans. Et une survenue qui viendrait après 20 ans, c'est plus rare, mais ça peut arriver quand même. Dans ces cas-là, c'est souvent suite à une expérience particulière là, où les gens ont été vraiment très embarrassés puis là, ont de la difficulté à passer par-dessus par la suite. Là.
Mais Émilie, lorsque ça arrive entre 10 et 20 ans, comme on peut l'observer plus souvent, comme vous semblez le dire, ça vient de quoi? Est-ce que c'est un trait de personnalité ou c'est plutôt... ça vient des parents et ça se transpose chez les enfants?
C'est très complexe, cette question-là, puis il n'y a pas d'études qui ont été capables de démontrer là, une théorie plus que l'autre. Fait, on a plutôt tendance à s'entendre pour dire qu'il y a différents facteurs bio-psychosociaux qui rentrent en jeu. Donc, au niveau biologique, là, il y aurait peut-être des facteurs génétiques, héréditaires qui expliqueraient que certaines personnes sont plus sensibles au niveau de l'activation de leur système nerveux. C'est comme si le système nerveux perçoit des dangers dans les situations sociales là, que d'autres percevraient pas. Mais on se rend compte aussi que l'apprentissage, quand les enfants de parents anxieux sont beaucoup plus susceptibles eux-mêmes d'avoir le trouble parce qu'ils vont avoir observé leurs parents tout au long de leur vie qui évitaient certaines situations ou qui vivaient les choses avec une grande détresse. Donc, l'enfant intègre que ça peut être dangereux ou ça peut être très difficile, les situations sociales. Donc, c'est aussi une des façons que les gens développent la phobie sociale.
On parle beaucoup d'anxiété. On connaît de plus en plus le trouble, les crises d'anxiété, troubles d'anxiété. Est-ce que c'est lié, ces deux troubles-là, phobie sociale et troubles d'anxiété?
La phobie sociale, en fait, c'est un trouble trouble anxieux. Donc, ça fait partie de la grande famille des troubles anxieux. Puis, puis c'est une branche le plus spécifique. Donc, c'est ça. Des fois, on l'appelle la phobie sociale, des fois, on l'appelle le trouble d'anxiété sociale.
Ah, OK, d'accord. Et est-ce que ça peut générer d'autres troubles de santé mentale? On parlait de dépression tout à l'heure.
Oui, évidemment, quelqu'un qui se retrouve dans des situations sociales très embarrassantes pour lui, en tout cas perçues comme embarrassantes, qui évite de plus en plus de situations, mais c'est sûr que ça peut engendrer un isolement. Et cet isolement-là, on voit que ça peut avoir un impact sur l'humeur. Donc, plus il y a plus de chances d'avoir des symptômes dépressifs ou même d'autres troubles anxieux, comme le trouble panique, par exemple. Mm-hmm.
Bon, on parle d'isolement, mais j'imagine aussi qu'il y a quelque chose de lié à l'entrave de l'épanouissement de soi-même, réalisation, estime de soi aussi.
Oui, absolument. C'est évidemment la personne qui se sent constamment incompétente dans toutes les situations sociales. Bien, c'est sûr que c'est difficile de bâtir une confiance en soi. Puis, cette difficulté-là fait en sorte que la personne évite de plus en plus les situations, mais plus elle évite, moins elle se sent confiante. Alors, il y a comme un cercle vicieux qui s'installe et qui fait qu'un alimente l'autre.
Émilie, mm-hmm. Si le trouble, la phobie sociale s'installe davantage entre 10 et 20 ans, mm-hmm. est-ce que l'on pourrait penser que c'est un trouble qui engendre plus de décrocheurs?
Je sais pas. Je vous dirais oui. Dans un premier temps, oui. J'ai pas les chiffres pour venir appuyer ça. Par contre, ce qu'on voit, nous, dans nos bureaux ici, c'est effectivement les gens qui ont une phobie sociale, c'est pas rare que c'est des décrocheurs ou qui ont un niveau de scolarité beaucoup plus... qui ont un niveau de scolarité inférieur à la moyenne des gens. Effectivement, ça, on l'observe.
Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de la difficulté de trouver un emploi ou de conserver un emploi, oui. Même d'entrer dans... en lien dans une relation amoureuse, là. Oui. Donc, ça a vraiment des répercussions sur la vie sociale.
Absolument. Puis sur la vie académique aussi, hein, parce que intégrer un nouveau programme d'études, bien, c'est sûr que c'est très, très stressant pour ces gens-là.
Mm-hmm. Comment on peut aider ces gens-là? Est-ce qu'il y a des traitements?
Oui, ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Il y a des traitements qui ont été démontrés efficaces. En fait, ce qu'on va conseiller, surtout, c'est une thérapie cognitive comportementale. Il y a aussi la pharmacothérapie qui peut être offerte là, en combinaison, dans le fond, avec que les gens ont à la fois la pharmacothérapie et font une thérapie cognitive comportementale, où on va travailler différents éléments avec les gens. Donc, d'abord, de mieux comprendre c'est quoi leurs difficultés, qu'ils comprennent bien c'est quoi les mécanismes anxieux qui sont à l'origine de leurs symptômes. Et il y a un entraînement aux habiletés sociales, hein, parce qu'évidemment, les gens qui ont évité beaucoup, beaucoup de situations sociales, des fois, ils n'ont pas développé toutes les compétences pour entrer en relation avec les gens.
Oui.
Puis la partie la plus importante, je vous dirais, du traitement, c'est vraiment de l'exposition. C'est donc tranquillement d'affronter des situations qui étaient évitées. Pour s'y sentir de plus en plus à l'aise, on y va de façon très graduelle en respectant le rythme et les compétences de chacun.
Oui, c'est ça. On s'implique pas là, tout de suite d'entrée de jeu dans une troupe de théâtre amateur, par exemple.
Non. On veut vraiment que les gens vivent des réussites. Donc, on prend les gens d'où ils arrivent, là, puis on bâtit à partir de là. Donc, il y a des gens, des fois, que ça va être un exercice pour être de laisser un message sur un répondeur, tout simplement.
Ben oui.
J'ai déjà vu une personne aussi qui a de la difficulté à marcher sur le trottoir parce qu'elle se sentait très observée puis avait peur d'être jugée. Donc, un exercice pourrait être de simplement prendre une marche sur le trottoir. Donc, c'est vraiment, on prend les gens où ils sont, avec leur peur à eux, leur pensée à eux. Mm-hmm. Et on part de là pour tranquillement aller vers une vie qui va être plus satisfaisante pour eux.
Ça peut aller, j'imagine, Émilie, jusqu'à regarder les gens dans les yeux, être près d'eux aussi physiquement.
Absolument, la proximité physique, vous avez raison, c'est un enjeu important aussi, oui.
On fait comment? J'ai l'impression que l'on parle davantage des adultes. On fait comment avec des enfants? Là, on parlait de 10-20 ans, enfants, adolescents.
Moi, ma spécialité, ce n'est pas le traitement auprès des enfants, mais je vous dirais que le traitement est essentiellement le même.
OK.
Donc, l'enfant aussi va être amené à s'exposer, mais souvent, ça va être en collaboration avec l'école, en collaboration avec les parents, mm-hmm. pour que l'enfant vraiment se sente soutenu là-dedans et que les expositions soient bien ciblées et qu'il vive vraiment beaucoup de réussite. Là. Mm-hmm.
Bon, vous venez de le dire, Émilie Jeté, vous n'êtes pas spécialisée avec les enfants, mais il y a vraiment une question qui me brûle les lèvres. On va entendre souvent un parent dire « Bon, fais pas ton gêné, ah, il est gêné. » Bon, lorsqu'on voit des enfants se cacher derrière leurs parents ou, mm-hmm. ou être timides, est-ce que c'est une façon de valoriser ce comportement-là? Est-ce qu'on devrait l'éviter?
Effectivement, en fait, pour n'importe qui a des difficultés, que ce soit un enfant ou un adulte, on va toujours éviter de blâmer les gens. Hein? Les gens se sentent déjà suffisamment incompétents ou pas bien au moment où ils émettent des comportements de gêne ou de timidité. Si on insiste sur ce comportement-là, qu'on blâme, bien, ça rajoute une couche à la détresse.
Ouais. Et ça, c'est la même chose avec les adultes. Là. Ce serait quoi vos meilleurs conseils pour quelqu'un qui vit avec un conjoint, une conjointe, un collègue, un ami qui a des phobies sociales?
Bien, peut-être la première chose, ce serait vraiment de s'informer. Il y a de très bons sites Internet, très bons livres aussi qui existent sur la phobie sociale. Donc, d'abord, de s'informer sur qu'est-ce que c'est ça, pour bien comprendre c'est quoi que son proche est en train de vivre, là. Mm-hmm. Et encourager les gens à consulter, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. C'est pas une caractéristique de la personne, elle n'est pas obligée de rester avec cette détresse-là pour toujours. Il y a des choses à faire. Donc, c'est d'encourager son proche à consulter, puis d'avoir de l'écoute, du soutien auprès de cette personne-là. Mais effectivement, on évite de blâmer, de dire à l'autre ce qu'il devrait faire, de lui donner des solutions toutes faites ou de l'invalider là, dans son point de vue, ses émotions. Là. Mm-hmm. On y va vraiment plus avec des comportements de soutien.
On le disait tantôt, le traitement est possible, que ce soit consultation, par des médicaments, par l'exposition. Il y a différentes façons de contrer les phobies sociales. C'est quoi le taux de réussite?
En fait, pour l'ensemble des troubles anxieux, les études démontrent là, un taux de réponse entre 70 et 80 %
Oh, quand même, c'est
oui,
très bien. Il y a beaucoup d'espoir.
Oui, il y a beaucoup d'espoir, effectivement.
Oui, puis après, on peut même voir ces gens-là, Émilie, obtenir un boulot, avoir un cercle d'amis un petit peu plus élargi, avoir une relation amoureuse. On peut aller jusqu'à espérer ça?
On peut aller jusque-là, oui.
Ah oh, bon, ben plein d'espoir, Émilie
oui.
Jeté, pour les phobies sociales. On voit bien que lorsque c'est bien pris à temps, bien diagnostiqué, puis qu'il y a un bon suivi, ben c'est possible de contrer la phobie sociale.
Absolument.
Bon, alors Émilie Jeté, vous étiez intimidée au départ, mais vous avez bien, très, très bien fait ça.
Bien, merci beaucoup.
Je rappelle, vous êtes psychologue au programme des troubles anxieux et de l'humeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci à vous aussi.
Bye-bye.
Bye-bye.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Ça vous fait pas ben loin, de toute façon.
Non, même si mon bureau est un petit peu plus loin qu'avant, mais c'est pas un trop grand détour.
Christiane, je pense qu'on va se tutoyer parce que ben on se connaît bien, on travaille ensemble, les gens à la maison le savent. Ben, vous êtes la recherchiste de C'est bon pour la santé, puis aussi chroniqueuse une fois par mois maintenant pour ce segment Histoire, grand nom de la médecine et de la science. Et on voulait commencer aujourd'hui pour ce premier segment sur peut-être avec la base, là, celui que l'on appelle le père de la médecine, Hippocrate et non pas Hippocrite. Là, des fois, on fait des petites blagues avec ça. On sait peu de choses sur l'homme, on sait plus de choses sur le scientifique, sur le médecin, mais ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il a laissé un héritage Hippocrate.
Un héritage qui a fait école pendant très, très, très longtemps pour des bonnes raisons et parfois des mauvaises. Mm-hmm. En fait, des bonnes et des mauvaises conséquences, plutôt. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Hippocrate de Cos, les Grecs, on les appelle toujours du lieu de leur naissance. C'est un médecin grec qui est né sur l'île de Cos vers moins 460, mort vers moins 370 à Larissa.
Ben, ça fait un petit bout.
Ça fait un moment. Puis ses œuvres sont surtout connues par d'autres écrits, entre autres les écrits d'Aristote, les écrits de Galien. Mm-hmm. Souvent, on parle du corpus Hippocratium, qui était tout un bloc d'écrits qu'on lui attribuait parfois, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de ça qui a été écrit par lui, mais plutôt par des gens qui ont poursuivi ses enseignements.
Oui, parce qu'il était et médecin, mais aussi professeur, et extrêmement vénéré, extrêmement admiré.
Oui, c'est ça. C'est le principe. Là. On le sait, avec les grands philosophes, ça fonctionne comme ça. Il y a plein de gens... Socrate n'a pas écrit, mais c'est Platon qui a écrit ses enseignements. C'est un peu le même principe. En fait, ses apports les plus importants, c'est le rejet de la magie. On considérait les maladies comme une punition de Dieu. On invoquait de la magie pour les guérir. On va le faire longtemps après aussi. Par contre, là, ça n'a pas été une victoire totale pour toute l'histoire de l'humanité sur le coup. Mais quand même, il sépare la religion de la discipline de la médecine. Il parle plutôt de facteurs environnementaux, d'alimentation, d'habitudes de vie. Dans ce sens-là, il est proche de nous. On va voir après... que ça se corse peut-être plus loin pour des raisons de méconnaissance du vrai fonctionnement du corps humain.
Oui, oui. Il a été un précurseur de la diététique.
Oui.
Ça, je pense que c'est quelque chose peut-être que les médecins d'aujourd'hui ont mis plus de côté, mais quand
ça
même, il a laissé ses marques pour ça. Ou peut-être il se distingue un petit peu de la médecine moderne, c'est que pour lui, le diagnostic n'était pas tant important. C'était vraiment plus le traitement. C'était plus un diagnostic large, là, mettons.
Oui, c'est aussi une question des connaissances de l'époque, mais quand même, on faisait c'était la recherche des causes des maladies après l'établissement de diagnostic qui est fondé sur un ensemble de signes cliniques. Mais là, c'est que Hippocrate est le père un peu de la théorie des humeurs. Ça, c'est une théorie là, qui va être utilisée en médecine jusqu'à la fin du 18e siècle. C'est qu'on attribue des humeurs, c'est comme, sont attribuées à des fluides là, qui circulent dans chacun des individus, là, la bile noire, la bile jaune, le phlegme, le sang. Et dans les théories d'Hippocrate et de ses suivants, c'est que quand il y a un déséquilibre de ces humeurs-là dans le corps, bien, c'est ça qui cause la maladie. Puis là, il y a de ces substances-là qui doivent être évacuées. Parfois, ça se fait naturellement. Le malade devient malade, et le malade va se mettre à tousser, va évacuer ça. Mais parfois, ils vont aller jusqu'à le provoquer, donc par des saignées, des purgatifs, des choses comme ça. Fait que dans ce sens-là, il est peut-être aussi un petit peu le père de tout. Continue d'utiliser ces théories-là. L'idée qu'il y a qui se promène dans notre corps et qu'il faut l'évacuer pour se sentir mieux, bien peut-être qu'on doit ça un petit peu aussi à Hippocrate et toutes ces méthodes qu'on utilisera pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu Le malade imaginaire hier.
Je l'ai lu.
Tous les traitements qu'on lui inflige, là, des saignées. Il y a certains médecins qui avaient surévalué la quantité de sang qu'il y avait dans le corps, alors ils en enlevaient beaucoup trop.
La recherche du pur, à quelque part. Là.
Oui, et de cet équilibre-là des humeurs qui était aussi, selon Hippocrate, influencé par les saisons, par l'alimentation.
Et par les éléments, je le disais, air, feu, terre,
oui, ça aussi,
eau.
C'était relié à ça.
Et il croyait à l'astrologie aussi, ce Hippocrate-là.
Oui, malgré le fait qu'il disait que la maladie n'est pas causée par Dieu, il y avait ça aussi. C'est resté, quand on parle d'humeur, aujourd'hui, on parle de personnalité et on continue d'utiliser les expressions être phlegmatique, colérique, sanguin ou mélancolique. Mais à l'époque, c'était type de santé, là, des types qui étaient plus portés à aller vers une humeur que vers l'autre. C'est par là qu'allaient les déséquilibres. Mm-hmm. Mais c'est resté dans le langage général.
L'un des héritages, je pense, qui est peut-être le plus marquant, en tout cas, du moins, le grand public connaît bien le serment qui est émis par les jeunes médecins encore dans les écoles ici en Occident. Pourquoi? Est-ce qu'on le sait? Pourquoi on le fait ici puis pas partout dans le monde?
Ça, je ne le sais pas, mais c'est vraiment considéré, là, autant j'ai lu des textes sur la France, un peu partout. C'est comme un rite de passage. C'est là qu'on cesse d'être un étudiant en médecine pour devenir un médecin. C'est quand on prête serment. Et on continue de le surnommer le serment d'Hippocrate, bien que si on compare le vrai serment d'Hippocrate à, par exemple, celui que font les médecins, les professionnels du Collège des médecins au Québec aujourd'hui, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il y a tout un article de blog d'Alain Vadeboncœur qui défait le... Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup argumenté que le projet de loi des soins de fin de vie allait à l'encontre du serment d'Hippocrate.
Oui,
si on
vrai.
Lit l'original, peut-être un peu, mais là, c'est parce que ça a évolué, tout ça. Depuis... Il y a tout un aspect du serment original qui concerne l'apprentissage, parce qu'on apprenait avec les maîtres, alors une fidélité à ses maîtres, tout ça. Il y en a qui sont reliés à la morale de l'époque aussi, ne pas donner de médicaments abortifs ou des choses comme ça. et aussi des choses qui concernent comme la corruption. Mais j'ai l'impression que le serment d'Hippocrate essayait d'englober tout ce qui pouvait toucher la profession à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un serment. Et dans le serment québécois, on fait... une mention au code de déontologie, comme si on savait aujourd'hui que ce serment-là, qui prend quelques minutes à dire, ne peut pas englober toutes les règles qui vont encadrer la pratique des
c'est
médecins.
C'est un parmi tant d'autres. Déontologie, confidentialité aussi, je pense,
oui.
Beaucoup, don de soi qui revient.
C'était dans l'original. Je ne le vois pas
ça.
Dans le code actuel. Il n'en fait pas partie.
Et c'est ça, vraiment... c'est celui-là qui serait contre les soins en fin de vie, là, finalement.
Oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment, j'exercerai la médecine selon les règles de la science et de l'art. Je maintiendrai ma compétence. C'est beaucoup dans ces choses-là. C'est peut-être plus pour protéger de certaines sciences alternatives, peut-être,
mm-hmm.
ou de choses comme ça. Et de mettre l'intérêt du patient avant le sien,
ouais.
De ne pas expérimenter sur les patients. Il y a des notions comme ça qui ont été ajoutées particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale dans les différents serments. Parce qu'on avait beaucoup fait d'expériences, particulièrement dans les camps.
Mmh. Et je lisais, ça c'est celui qui, c'est dans le code original, vous irez chez, dans les foyers, dans les maisons, vous respecterez l'intimité des gens qui y habitent. Ben ça, on voit ça de moins en moins. Quoi qu'il y en a encore des médecins qui se déplacent dans les
oui.
résidences et tout, mais un petit peu moins, c'est moins la norme.
Ça a été remplacé par les clauses de confidentialité.
Voilà. Christiane Campagna, ça a été un plaisir. On se retrouve dans un mois pour parler d'invention qui a marqué l'histoire de la médecine et de la science. Merci.
Je vous en prie.
Mathieu Tessier à la mise en onde, ben c'était Christiane à la recherche et à la chronique. Elle fait tout, cette femme orchestre. Marianne Paquette au micro, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on parle humour et santé avec Catherine Boulay, elle psychologue. Et puis, ben, on recevra aussi Guylaine Gay. Soyez-y, portez-vous bien d'ici là. Bye-bye!